Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à débuter et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, deux nouveaux établissements scolaires rennais laissent la rue aux écoles, deux interviews, d'abord pour décrypter le cinquième diagnostic d'HF plus Bretagne sur l'égalité homme-femme dans la culture dans la région, puis pour annoncer le village des possibles ce week-end. Il y aura de la musique dont une nouveauté, puis enfin une recommandation, le forum Séisme Grand Ouest pour un public en quête de sens. Bienvenue dans l'arène. Allez, on commence comme chaque jour avec l'info que j'ai retenue pour vous. Aujourd'hui, on parle de la ville de Rennes qui étend son dispositif rue aux écoles dans le cadre de sa politique pour une ville à hauteur d'enfant. Alors, en avril 2022, des expérimentations de rue aux écoles ont été menées dans les écoles Joseph Lotte pour le quartier Saint-Martin et dans l'école des Gantelles, là dans le quartier Maurepas. L'idée, c'est de fermer, avec un système de barrières amovibles, l'accès aux véhicules motorisés à proximité de l'école en question, le matin mais aussi le mercredi midi. Objectif, créer des rues plus sécurisées et favorables à la marche des enfants, à leur autonomie en passant, car les piétons, cyclistes et conducteurs de trottinettes sont eux les bienvenus dans ces rues aux écoles. Et le dispositif, il permet aussi de réduire les pollutions et d'améliorer la santé des enfants en luttant contre la sédentarité. Une expérience positive qui a été pérennisée et qui est désormais proposée à deux nouvelles écoles, l'école Albert Demain pour le quartier Sud-Gare et l'école Jules Ferry, là dans le quartier de la Bélangerie. Le dispositif est pour le moment installé depuis le 9 et jusqu'au 20 octobre, avant une pérennisation au retour des vacances de la Toussaint. Sur place, les parents d'élèves sont sollicités pour assurer une présence près des barrières, expliquer aussi le dispositif aux passants, qu'ils soient parents, enfants ou encore riverains, une façon de rendre les parents actifs en vue d'un temps de bilan à la fin de l'expérimentation. Et puis à terme, la municipalité aimerait bien étendre ce dispositif à l'ensemble des écoles de la ville. Allez, après cette info du jour, on poursuit avec la première interview du jour. Sarah Karlikoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des membres fondatrices d'HF Plus Bretagne et toujours aujourd'hui militante dans cette association qui vient de publier la cinquième édition de son diagnostic sur l'égalité homme-femme dans le champ de la culture ici en Bretagne. Alors le petit plus vient de se rajouter pour une démarche encore plus inclusive et HF Plus Bretagne, eh bien, fête ses 10 ans cette année, publie ce diagnostic là dont on va parler depuis 2015. C'est en fait votre travail le plus conséquent, le plus visible, à savoir un diagnostic chiffré sur l'égalité homme-femme dans le champ de la culture ici en Bretagne. Vous êtes combien aujourd'hui ? Est-ce que les équipes ont grossi avec les années ?
Les équipes, le HF Bretagne, c'est d'abord des militantes et quelques militants. Et c'est des militantes, des adhérentes à l'association et peut-être on doit être une trentaine ou une quarantaine de membres actifs. On a la chance d'être soutenu par plusieurs collectivités que sont la région Bretagne, la ville de Rennes, Rennes Métropole, la DRAC, la DRDFE surtout, la Direction Régionale Droits des Femmes Égalité. Et donc d'avoir maintenant deux postes de personnes qui peuvent nous aider à la coordination. Et la coordination, elle est nécessaire parce que toutes ces militantes, elles travaillent chacune dans les domaines qui les intéressent. Et donc, il y a plusieurs groupes de travail. Il y a un groupe de travail pour élaborer ce diagnostic et le publier. Mais il y a par exemple un autre groupe de travail sur le matrimoine et toute l'importance de valoriser le travail des femmes d'avant et de compléter le patrimoine qu'est l'héritage des pères par le matrimoine qu'est l'héritage des mères. Mais il y a des groupes par thématique, il y a un groupe musiques actuelles, il y a un groupe théâtre, il y a un groupe violences sexistes et sexuelles, enfin bref, il y a plusieurs groupes. Et donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qui font les équipes, si on peut dire ce mot-là, de, en tout cas la force de HF Plus Bretagne. Ouais.
Les inégalités de genre dans les arts et la culture en Bretagne, édition 2023. C'est le titre d'un diagnostic de 48 pages qui a été présenté au public à la fin du mois de septembre et qu'on peut retrouver en ligne, je le dis tout de suite, sur le site hfbretagne.com. Vous continuez donc à compter. Pourquoi est-ce que c'est encore nécessaire? Les choses quand même bougent, il faut le dire, depuis que vous avez lancé ce diagnostic, trop lentement à votre goût.
On compte pour plusieurs choses. On compte parce qu'il faut objectiver la situation. Tout le monde, y compris les personnes de meilleure volonté, ont une vision faussée si elles se basent sur leurs impressions. J'ai eu l'occasion de discuter avec un programmateur qui m'a dit « Moi, je pense que je dois avoir à peu près 40% de femmes dans ma programmation. » Et quand je lui ai montré les chiffres, c'était 17%. Donc, même avec la meilleure volonté, c'est bien de pouvoir savoir où on en est. Et avoir des éléments concrets pour dire la place des femmes n'est pas celle des hommes dans ce secteur. Ensuite, on compte pour pouvoir se donner des objectifs chiffrés, parce que si on veut voir comment les choses ont avancé, et effectivement elles ont un peu avancé, et ben c'est bien d'avoir des éléments comparables avant pour pouvoir faire ces comparaisons.
Je donne un premier chiffre, signe d'une amélioration quand même, avec là aujourd'hui 25% d'artistes dans le champ de la musique, d'artistes femmes, un chiffre qui était de 18% en 2019. Mais le constat, c'est le suivant, aucune discipline n'atteint 50% de projets portés par des femmes, sauf tiens dans la programmation, dans le spectacle jeune public, parce qu'il y a des questions de genre.
Oui. Parce que dans ces inégalités et ces mécanismes de discrimination, les stéréotypes sont vraiment importants. Et que un des stéréotypes qui est que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, ce sont les femmes qui ont cette ère de travail-là, reste très, très important. Mais l'autre chose aussi, et qu'on verra tout au long du diagnostic, c'est que moins il y a de moyens, plus il y a de femmes, et les spectacles jeunes publics sont les spectacles dans lesquels il y a le moins de moyens pour ce secteur-là.
Pour arriver à ces chiffres, et on va continuer à vous en donner, auditeurs, vous avez chez HF Plus Bretagne analysé à la fois les programmations culturelles de la région et aussi recueilli les données internes aux structures. Est-ce que c'est facile de les convaincre, ces structures, de votre démarche, sachant qu'il y en a des nouvelles là qui viennent s'ajouter avec les champs du cinéma et des musées qui rejoignent votre diagnostic ?
Alors, il y a plusieurs niveaux de réaction à notre démarche. Il y a une réaction, en général, une réaction publique favorable, parce que dans le secteur de la culture, ça fait quand même pas bon genre que de ne pas se préoccuper de cette question et de dire que non, on est contre une égalité entre les femmes et les hommes. Donc, globalement, et la première réaction, elle est plutôt favorable. En tout cas, elle est plutôt favorable de la part des réseaux professionnels avec lesquels on a travaillé. Ensuite, on s'est trouvé face, par exemple, dans le cinéma, à des réactions de responsables, directeurs de festivals qui nous ont répondu des mails violents sur le fait qu'il ne s'agissait pas du tout pour eux de compter, qu'ils avaient autre chose à faire et que c'était du perte de temps et donc de la perte d'argent. Donc on a quand même des réactions qui sont très négatives et qui restent violentes, quelquefois. Globalement, les réseaux professionnels avec lesquels on a travaillé, parce que ces questionnaires qu'on a pu faire sur les données internes des structures sont passés par le relais des réseaux professionnels. Et donc la réaction des réseaux professionnels, elle est très positive.
On cite les nouvelles structures et services qui ont contribué là à ce travail dont on va parler. Bretagne Musée, Film en Bretagne, le service cinéma de la région Bretagne, et avec aussi des structures comme l'école du TNB ou les SAB écoles qui ont fait remonter des chiffres qu'on va essayer de mettre en lumière maintenant. Il y en a beaucoup, alors on va essayer de dégager les constats majeurs par secteur, en commençant par celui du spectacle vivant, où si on s'intéresse aux responsables artistiques, plus la salle a de la visibilité, moins les femmes y ont une place importante. Et c'est un constat même un peu global qu'on peut faire. Plus les salles sont grosses, plus elles sont labellisées, plus il y a de dates prévues, moins les femmes y ont leur place.
Oui, globalement, ça reste lisible tout au long du diagnostic et sur tous les domaines. plus il y a de moyens, plus il y a de visibilité et moins il y a de femmes. Si on regarde les chiffres des directions des lieux, par exemple, dans le spectacle vivant, on s'aperçoit qu'en fonction du budget des lieux, les lieux qui ont un budget, les budgets les plus importants sont dirigés par des hommes, les lieux qui ont des budgets les moins importants sont dirigés par des femmes. Donc si on regarde les chiffres globalement, on peut imaginer que ça fait à peu près 50-50, j'ai plus les chiffres en tête, pardon, mais si on les regarde de manière précise, on s'aperçoit que c'est les femmes qui sont dans les endroits les moins dotés. Et pareil, effectivement, pour le nombre de représentations, les spectacles qui ont un plus grand nombre de représentations sont des spectacles qui sont portés par des hommes. Ouais.
De façon globale, si on s'intéresse vraiment aux artistes qui sont sur scène dans ce champ du spectacle vivant, là, aujourd'hui, 60% de ces artistes sont encore des hommes. On passe au volet cinéma, alors qu'il y a un peu un nouveau champ qui intègre votre diagnostic. HF Plus Bretagne décrit un panel régional qui est limité avec des refus de réponses. On découvre en tout cas que sur 2043 films projetés, 40% sont réalisés par des femmes contre 53% par des hommes. Ça veut pas dire, la situation elle a aussi une complexité. Les femmes, elles sont par exemple plus nombreuses que les hommes à la direction et à la programmation des festivals. Mais vous tenez à le dire, c'est un secteur où le constat a besoin d'être nuancé justement parce que les chiffres sont encore à leur début.
Oui, on est en tout début de démarche pour le cinéma. On est sur des temporalités différentes pour le cinéma parce que la production d'un film est beaucoup plus longue et prend beaucoup plus de temps que la diffusion d'un spectacle, et qu'on n'a pas pu compter évidemment les diffusions dans tous les cinémas, c'est pas le même endroit. Donc on est vraiment au début d'une démarche avec ces deux réseaux qui sont liés au cinéma. C'est pour ça qu'on a tenu à mettre aussi en lumière les chiffres nationaux, parce qu'on voit bien dans les chiffres nationaux que les budgets des films portés par des réalisatrices sont 21% inférieurs à ceux portés par des réalisateurs, alors qu'en Bretagne, là pour le coup, les budgets portés par les réalisatrices sont supérieurs. Par contre, on voit que si on regarde les budgets des producteurs et productrices, encore une fois, c'est les producteurs qui ont les budgets supérieurs et les productrices qui ont les budgets inférieurs.
Autre constat dont il est intéressant de dire un mot, c'est que dans le champ du cinéma comme ailleurs, on retrouve des métiers très genrés. Pour la prise de son, la machinerie, ce sont les hommes qui sont vraiment en nombre, et on retrouve des femmes là presque plus qu'en majorité, uniquement présentes dans les métiers associés aux costumes ou encore au maquillage du cinéma. On passe maintenant aux arts visuels. Vous avez là travaillé en lien avec l'association Art Contemporain en Bretagne. J'ai l'impression qu'il y a quand même un rattrapage important sur certains chiffres. Par exemple, on passe de 31 à 43% de femmes auxquelles sont consacrées des expositions monographiques par rapport à 2014. Également de 46 à 64% de femmes directrices de structures. Est-ce que ces avancées, quand il y en a, elles sont dues à des mécanismes de discrimination positive qui sont incités peut-être par des politiques publiques ?
Il faut ramener ces chiffres à la proportion des étudiantes et des diplômées dans à l'ESAB, par exemple, l'École supérieure des arts de Bretagne. Et je dois dire que c'est souvent la même chose dans les autres lieux d'enseignement supérieur. Là, le nombre de femmes parmi les diplômées de l'ESAB est passé à 73%. Donc il a encore augmenté. Et donc quand on ramène le chiffre de 73% de femmes diplômées au nombre de femmes exposées, il y a évidemment encore un endroit de disparition pour ces femmes-là. Je parle de femmes qui ont décidé de s'engager dans les études supérieures. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui repartent vers l'enseignement et ce genre de choses, parce qu'il y a quand même encore, par rapport au nombre d'hommes diplômés, qui sont donc de 26% par rapport aux diplômés, ils ont quand même encore une majorité des expositions. Alors ensuite, la question de qu'est-ce qui a fait augmenter les chiffres globalement, parce qu'ils ont augmenté quand même pour les femmes dans tous les secteurs, en tout cas les secteurs du spectacle vivant, du cinéma, des arts visuels. Cette question-là, elle est liée à plusieurs processus. Il y a la prise de conscience, voire la conviction qu'il faut changer les choses. Cette prise de conscience, elle a été heureusement valorisée et animée par notre militantisme. J'ose espérer que le travail qu'on fait sert à quelque chose. Elle a été aussi renforcée par le mouvement MeToo. Par le nombre d'émissions, de gens qui se préoccupent de cette question. Donc il y a quand même un mouvement de prise de conscience important. Mais on se rend compte très rapidement que, quelle que soit la bonne volonté des gens et des responsables de programmation, ils se heurtent à plein d'endroits de discrimination des femmes, et qu'à un moment, nous, on milite aussi pour que cette conviction soit renforcée par de la contrainte, et qu'à un moment, quand il y a de l'argent public pour soutenir le secteur culturel, ce qui est évidemment le cas, que cet argent public soit conditionné à la réalisation d'objectifs chiffrés pour que les femmes aient une plus juste place dans l'ensemble de cette exposition, que ce soit l'exposition du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma, etc. Et ça, c'est un vrai travail, parce que cette contrainte, elle doit se baser sur des chiffres, d'où la nécessité que tout le monde compte aussi.
Et il reste donc des choses à faire bouger, puisque si je reviens au champ des arts visuels, les artistes hommes ont droit à des expositions plus longues. Si on va dans le détail, on découvre aussi qu'il n'existe aucune structure avec des moyens de garde, notamment pour les artistes qui vivent l'expérience de la maternité, et qu'après 50 ans, l'écart se creuse entre artistes hommes et femmes qui sont encore en activité à ce moment de leur vie.
C'est complètement caractéristique de tous les systèmes et tous les mécanismes d'invisibilisation et de disparition des femmes dans les carrières. C'est-à-dire qu'évidemment, ce stéréotype de la femme qui s'occupe de sa famille, de ses enfants et qui a ça en charge n'est pas seulement un stéréotype mais une réalité. Qu'effectivement les conditions de garde ne sont pas là pour puisque la réalité c'est qu'elles s'en occupent. S'il n'y a pas de conditions de garde, elles ne peuvent pas y aller. C'est la même chose dans le spectacle vivant. Aller en tournée quand on est une femme est plus compliqué que d'aller en tournée quand on est un homme. Et donc on a une visibilité moindre puisqu'on va moins en tournée, et le cercle vicieux continue, ce qui fait qu'après un certain âge, on a disparu des radars.
On arrive au musée qui, donc, avec les cinémas qu'on a déjà évoqués, sont les nouvelles structures sur lesquelles vous amenez de la lumière. Dans les expositions temporaires, à 68%, c'est le travail artistique ou l'histoire des hommes qu'on montre au public. On comprend donc l'importance du travail sur le matrimoine pour essayer de remettre en lumière des figures féminines. C'est quand même mieux quand la direction est féminine et dans les champs des beaux-arts et de l'art contemporain, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est-à-dire que les musées, en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement des musées d'art, hein, mais il s'agit bien des musées d'art et d'histoire, des écomusées, etc. Donc on parle de la capacité qu'ils ont aussi à compter. Parce que la première chose pour compter, c'est d'avoir des champs indexés. Et c'est une chose que beaucoup de musées n'ont pas encore. C'est ce qu'on a mis en lumière aussi dans le diagnostic. Donc eux-mêmes, pour savoir quelle est la part du travail fait par des femmes ou des personnes minorisées de genre ou des hommes dans leur collection, il est compliqué à faire. Donc évidemment, ce qu'on voit à partir des chiffres qu'on a, même s'ils sont encore une fois partiels, puisqu'ils n'ont pas tous les moyens de compter, c'est que quand ce sont des expositions scientifiques, encore une fois, ce sont des hommes. Encore une fois, cette histoire de stéréotypes et d'affecter les gens à ce qu'on considère être leur rôle. Et effectivement, il y a encore vraiment du travail à faire de ce côté-là, du côté des musées.
On termine avec un mot sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles, auxquelles est consacré un dernier chapitre dans ce diagnostic. Le secteur culturel, c'est pas une surprise, n'est pas épargné par le phénomène, puisqu'on a même vu des hashtags MeToo théâtre, par exemple, émerger. Il y a des outils qui existent pour y faire face, mais ce qu'on découvre, c'est que 58% des structures ne forment aucun salarié à ce sujet. C'est là qu'il y a encore du travail.
Ah bah, c'est clair que... Alors, il faut dire que les VSS, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles, on parle bien de l'ensemble des violences, c'est-à-dire c'est l'ensemble des comportements, des violences verbales, des discriminations. On ne parle pas que du viol ou des violences physiques. On parle bien de toutes ces violences qui ont un impact sur la carrière et la vie des femmes, un impact de dévalorisation, des répercussions sur la confiance en soi, des répercussions sur l'orientation, des répercussions sur le bien-être au travail, sur l'abandon des missions. Donc les violences sont vraiment un des éléments d'élimination des femmes du secteur. Donc c'est vraiment important d'en parler. Là, dans le diagnostic, ce qu'on a compté, c'est pas les violences, évidemment, parce qu'effectivement, il y a les MeToo musique, il y a les MeToo théâtre, et on n'a pas compté les violences, mais on a essayé de compter ce que faisaient les structures pour lutter contre ces violences dans le secteur et les outils qui sont mis en place. Les outils, ils peuvent être très varié. Il peut y avoir des protocoles et on travaille avec la mission Sturm, qui est une mission spécifique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne.
Donc des protocoles de signalement quand on est confronté.
Des protocoles de signalement, des protocoles par rapport aux questions des agressions dans le milieu festif, mais aussi des protocoles de signalement en interne. Il peut y avoir la formation des personnes, il peut y avoir des clauses dans les contrats, il peut y avoir beaucoup de choses. Et là, ce qu'on a posé comme question seulement, c'est est-ce que vous avez mis en place des formations ? Parce que les formations sont un élément essentiel de la prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en formation en disant « mais moi, je n'ai pas subi », etc. et qui ressortent en se rendant compte non seulement de ce qu'ils ont subi, mais de ce qu'ils peuvent perpétuer comme
comportement
habituel. Et donc, effectivement... ce qu'on analyse, on ne le voit pas directement dans le diagnostic, mais ce qu'on analyse, c'est que les structures dont les subventions sont conditionnées à la mise en place de formations, et c'est le cas des structures des musiques actuelles et du cinéma, parce que le Centre national de la musique, le CNM, ne donne de subventions à ces structures que si elles ont mis en place une formation. Et le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, fait la même chose. Et donc là, ces structures-là ont mis en place des formations. Et on voit bien que les autres, quelles que soient leurs bonnes intentions, y compris celles qui sont dans ces réseaux qui manifestent de bonnes intentions, ont du mal à prendre du temps, de l'argent et de l'énergie pour mettre en place ces formations. Et donc, dans le milieu du théâtre, elles sont beaucoup moins nombreuses que dans le milieu des musiques actuelles, par exemple. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel, parce que c'est vraiment un endroit dont on se rend compte que c'est un gros, gros facteur de discrimination des femmes.
Bon, on a essayé de dégager les éléments principaux de ce cinquième diagnostic sur l'égalité homme-femme dans la culture en Bretagne. Si le sujet vous intéresse, le plus simple, c'est d'aller découvrir ce diagnostic dans le détail sur le site hfbretagne.com. C'est le moment où je vous représente Sarah Karlikoff. Vous êtes l'une des membres fondatrices d'HF Plus Bretagne, qui vient donc de publier ce cinquième diagnostic qu'on a essayé de décrypter. Nous ne sommes pas une mode, nous sommes une lame de fond. C'est le message qui est martelé par votre association à partir des chiffres qu'on a mis en lumière. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Hibiscus Eater des Vanishing Twins sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur musical, et que j'ai ensuite, moi, choisi pour vous dans cette émission. C'est un morceau à retrouver sur l'album Afternoon X, qui est sorti le 6 octobre chez Fire Records. C'est le quatrième disque de ce quintet pop psychédélique anglais, basé à Londres, et qui a été lancé en 2015. Vous êtes en train d'écouter l'émission d'information locale de Canal B, c'est l'arène. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0, peut-être en train de nous écouter en ligne sur canalb.fr. Et on continue avec une deuxième interview réalisée par Corentin. Corentin Petitclerc, c'est notre nouveau volontaire en service civique. Comme je fais les choses dans le désordre, je le laisserai se présenter, lui et puis Léonard, notre deuxième volontaire en service civique, dans l'émission de demain. Mais tout de suite, son interview.
La sixième édition du Village des Possibles se tiendra les 14 et 15 octobre sur le mail François Mitterrand. C'est Emma, militante chez Alternatiba, groupe organisateur de l'événement, qui vient nous le présenter. Bonjour Emma.
Bonjour.
Donc tu fais partie de l'antenne rennaise du mouvement écologiste Alternatiba. Tu peux nous dire en quoi ça consiste ?
C'est ça, Alternatiba, c'est une association pour la justice sociale et climatique, qui est une organisation nationale, mais répartie en plusieurs antennes locales, même plein de petites antennes locales, puisqu'elle se base beaucoup sur les alternatives locales, notamment pour créer une nouvelle société, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle a deux jambes, une qui va combattre les projets et les aspects de la société actuelle qui ne vont pas, mais elle va aussi avoir l'autre jambe qui va être tournée vers l'avenir et vers les alternatives, tout le nom de l'organisation. Donc une version un peu plus positive aussi du militantisme, en quelque sorte.
Alternatiba, c'est un mouvement écolo qui milite, entre autres, pour la sortie du système néolibéral, capitaliste et patriarcal. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont motivé à rejoindre ce groupe et à militer pour le climat ?
Je dirais que ça a été pendant tout le mouvement sur la réforme des retraites, où je ne me sentais pas forcément être la première concernée par cette question des retraites, mais c'est l'action du gouvernement qui m'a poussée à me dire « là, il ne va pas y avoir de décision prise pour l'environnement ». Ça faisait un moment que j'étais très très éco-anxieuse et je me suis dit « il faut agir ». Le rapport du GIEC le dit, il y a 50 à 70% des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique qui se trouvent au niveau local. Donc je me suis dit, ça y est, faut y aller, faut s'investir. Et il y a un gros lien entre la justice sociale et la justice climatique. Et pour moi, cette manière de lutter, elle était cohérente. Donc c'est pour ça que je me suis tournée là-dessus. Puis juste après, ça a été aussi la dissolution, enfin l'annonce de dissolution des soulèvements de la Terre, où effectivement, ça m'a paru scandaleux et toujours... En réaction à ces prises de position gouvernementales, je me suis lancée là-dedans.
Et toi, du coup, tu vois un lien entre justice sociale et justice climatique. Est-ce que tu peux dire pourquoi, en quoi militer pour le climat, c'est aussi militer contre les autres aspects du système ?
Déjà, je vois deux choses. C'est-à-dire que la lutte contre le climat, elle ne devrait pas être réservée à une élite ou à une certaine classe de la société. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et les premiers qui vont en payer le prix fort, ça ne va pas être les plus aisés. Donc il faut résoudre ça avant la crise climatique et c'est lié. Puis aussi, je dirais que les causes de l'injustice sociale sont les mêmes que les causes du dérèglement climatique et de la catastrophe qui va arriver. Donc... En fait, la source est la même, même si les conséquences peuvent être différentes. Et selon moi, il faut vraiment lutter à la source.
Pendant l'été 2023, aux côtés des associations Les Amis de la Terre et ANVECOP21, Alternatiba a été à l'initiative de l'organisation de Camp Climat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est ?
Ouais, Camp Climat, c'est un peu plus qu'un week-end, c'est 4 jours. Alors, chaque Camp Climat a son format. C'est un peu la spécialité d'Alternatiba, c'est-à-dire que chaque antenne organise un peu ce qu'elle veut à sa façon. On va le voir plus tard, pour les villages des possibles, c'est pareil. Chacun le fait un peu à sa sauce. Les camps climat, nous, on est allé à celui de Nantes. C'est des week-ends qui permettent de se retrouver et de se former, surtout sur tous les enjeux, sur tous les modes d'action, de se retrouver, de partager pas mal de savoir sur comment lutter. Et puis, je pense que c'est bien de lutter, mais il faut être aussi bien informé pour se faire son avis et le faire intelligemment. Et c'est des moments où on peut le faire dans la bonne humeur et ouais, c'est ça, en toute confiance, c'est pas mal. Vraiment, c'est des bons moments.
Il y a un terme qui revient souvent dans la communication d'Alternatiba, c'est celui de la non-violence. Le groupe, il parle même parfois de diffusion de la culture de la non-violence. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est ?
Oui, c'est la base d'Alternatiba, c'est la charte de non-violence. C'est un peu la même chose, Alternatiba et ANV, donc Action non-violente pour la COP21 à la base. C'est des modes d'action qui font que on ne fait appel en aucun cas à la violence, donc ça va être à visage découvert, on va toujours être avec une carte d'identité et de quoi nous identifier sur nous, un gilet, un nom, on va jamais se cacher, jamais face cachée, et effectivement jamais de violence dans les actes ou dans les faits. L'idée c'est que dès qu'on fait une action, elle est définie dans le temps, dans l'ampleur, dans le nombre, comme ça on limite les débordements. Même si on a vu qu'il y avait des actions, aussi non violentes soient-elles, qui étaient réprimées dans la violence, notamment cette année, et c'est bien dommage. Mais c'est aussi un mode d'action qui permet de déstabiliser beaucoup la personne qu'on va interpeller, parce qu'on peut tomber vite dans l'absurde, dans le décalage. Il faut être inventif pour pouvoir aborder les problèmes sous d'autres angles qui peuvent surprendre. Et ça peut permettre de faire réfléchir. C'est aussi une façon d'être peut-être un peu plus visible. En tout cas, on braque moins les gens si on ne se tourne pas vers la violence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de mode d'action violent, il faut les deux. Il faut des modes très radicaux pour dénoncer et il faut aussi des modes qui puissent parler peut-être à plus de gens sans brusquer. Et c'est la façon de faire d'Alternatiba.
Est-ce que la violence envers les biens, ça existe? Ou est-ce que c'est que envers les personnes?
Normalement, non, il n'y a pas de violence envers les biens non plus. Il est arrivé qu'on appose des choses. Par exemple, on a toute une campagne à Rennes anti-pub où on va aller remplacer des affiches, mais on ne va jamais casser une vitrine pour mettre une affiche. On va démonter avec une clé, la mettre, et il ne va pas y avoir de dégradation de biens. Pareil, il y a eu plusieurs actions contre Total et les banques qui financent Total, avec notamment la peinture des vitrines, mais c'était de la peinture à l'eau, enfin c'était nettoyable à l'eau, ou d'autres versions où on va nettoyer les banques. Et là, c'est typiquement de l'absurde parce qu'ils nous voient nettoyer le sol d'une banque. C'est pas de la dégradation. Par contre, c'est vrai qu'on intervient sur un bien, mais sans dégradation. Et donc c'est dans les paroles, dans les gestes, on essaye de pas être, enfin on n'est pas violent, pas de l'attaque d'une personne. Souvent c'est plus de ses actions, de sa façon de parler et sa façon de faire.
Du coup, les 14 et 15 octobre se tiendra donc la 6e édition du Village des Possibles, événement dont vous êtes les organisateurs. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça va ressembler dans les grandes lignes?
Oui, alors le Village des Possibles, déjà c'est un événement qui s'inscrit à l'échelle nationale dans la Fête des Possibles, qui a normalement lieu plutôt du 8 au 24 septembre. Nous, pour des raisons de calendrier sur Rennes, on est plutôt donc le 14-15 octobre. Et c'est donc, comme son nom l'indique, un village avec beaucoup de petits stands. L'idée, c'est de rassembler toutes les alternatives locales qui puissent exister pour donc les deux volets justice sociale et climatique, avec aussi des scènes pour pouvoir parler, s'informer. Donc à l'image du camp climat, l'idée c'est qu'on puisse débattre, s'informer, connaître, comprendre, voilà, prendre conscience de tous les enjeux, surtout qu'ils commencent à être de plus en plus nombreux. Donc il y aura pas mal de conférences cette année. Donc il y a une petite, une grande scène, des stands, un espace jardin, où le dimanche il y aura des activités comme du yoga, des choses comme ça, un peu plus aussi pour les enfants avec des contes, puisque le thème du dimanche c'est le loup, puisque le loup est de retour en Bretagne et on veut en parler. Et il y a aussi donc plutôt en fin de journée des moments plus conviviaux avec des concerts, un bar, de quoi fêter tout ça.
Donc comme tu l'as dit, il y aura très nombreuses associations, des collectifs et artisans qui tiendront des stands pour présenter leur action pour un monde plus solidaire, juste et durable. Est-ce qu'il y aura des stands incontournables?
Je pense que tous les stands valent le coup d'être vus. Et puis, je dirais que c'est à la sensibilité de chacun. Tout le monde n'a pas envie d'aller voir toutes les assos très militants. Tout le monde n'a pas envie d'aller voir les artisans. Mais vraiment, il y a de quoi faire pour tout le monde. L'idée, c'est d'aller se renseigner et d'aller voir ce qui fait plaisir. Il y a 70 associations et artisans qui seront là. Donc, faut pas hésiter à faire un tour. Chacun y trouvera son compte. Il y a des choses plus ludiques avec des quiz, de quoi mettre la main à la pâte, sur, par exemple, comment construire différemment. Et il y a des librairies, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des expositions, notamment de Wild. Donc, c'est sur les forêts sauvages en Bretagne. Normalement, tout le monde peut y trouver son compte.
T'as parlé un peu de la fin de journée plus conviviale. Est-ce qu'on pourra aussi faire la fête au Village des Possibles?
Ah oui, bien sûr. Comme on dit, Alternatiba prône une façon de voir l'avenir et de militer assez positive. Donc on a bien sûr pensé à ça. Il y aura deux concerts le samedi soir, Argalouve et La Reine des Voyous, avec un petit bar. Et l'idée, c'est de fêter tout ça jusqu'à 22h.
Il y aura aussi des concerts le dimanche de 12h30 à 13h30 Pili et de 14h30 à 15h30 Danse Bretonne par le Cercle Celtique. Cette édition 2023 est annoncée comme la plus ambitieuse jusqu'à ce jour. Pour rappel, l'année dernière, vous avez accueilli près de 7000 participants autour des thèmes de la transition écologique, solidaire et citoyenne. Est-ce qu'il y aura des nouveautés par rapport à l'année dernière ?
Au niveau local, il y a pas mal de courants militants qui se sont mis en place. Et notamment, on a la chance cette année d'accueillir Splan. Donc c'est une ONG lanceur d'alerte. Vous en avez sûrement entendu parler avec la BD des algues vertes sur le travail d'Inès Leroy. Donc Inès Leroy a fait beaucoup de travaux d'investigation et fait partie des initiateurs de cette ONG. Et elle et ses collègues tout aussi talentueux ont monté cette ONG et viennent nous parler de quel rôle a le journaliste dans cette urgence climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une ONG qui est locale. C'est des lanceurs d'alerte en Bretagne sur des sujets locaux. Et je pense qu'on va beaucoup entendre parler d'eux dans les années qui viennent. Ils seront là. Autre tête d'affiche, si on peut appeler ça comme ça, il y a Guillaume Faburel, qui est un géographe et urbaniste, qui a publié plusieurs livres sur la notion de métropolisation et comment les villes qui s'accaparaient en fait tout le territoire étaient néfastes, notamment sur l'artificialisation des sols. Puis on a l'association Front de Mer aussi, qui sera là pour nous parler justement de ces questions d'écologie populaire et de comment faire que ça concerne tout le monde.
Du coup, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que ce sera possible de venir avec ses enfants ?
Bah oui, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Il y en a pour tout le monde. Pour les enfants, il y a des contes qui sont prévus, notamment le dimanche. Le yoga, ils peuvent bien sûr venir. Il y aura un petit atelier de maquillage à paillettes. Il y a l'espace jardin. Puis l'idée, c'est effectivement que ce soit ludique pour le plus grand nombre. Donc, on souhaite que les enfants sentent le bienvenu. On est sur le mail. Normalement, il fera beau. Tout le monde est le bienvenu.
Y a des agora qui devraient se tenir samedi à 18h et dimanche à 11h30. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors samedi, on va faire un petit point sur toutes les luttes qui ont été gagnées cette année pour pouvoir fêter ça, parce qu'on n'a pas l'occasion de fêter ce qui va bien, surtout en ce moment. Donc le temps de 18h avant les concerts samedi va être consacré à ça, à marquer ce qui a réussi. Puis dimanche, c'est pour l'ouverture du beau dimanche qui nous attend avec les activités, de quoi manger, de quoi faire la fête, danser, tout ça.
Est-ce que c'est important pour vous, Alternativa, d'organiser des espaces militants, mais qui sont plus des espaces d'échange et de formation ?
Oui, je pense que ça peut nous l'être reproché, le fait d'être très intellectuel des fois, Alternativa. Mais pour nous qui travaillons sur les alternatives, ça demande beaucoup de temps de réflexion, de travail sur les imaginaires, sur les options, ce qui a pu se faire dans le temps, en termes politiques, on peut parler de ça. Donc c'est très important de se renseigner, de comprendre, de voir, de faire des états des lieux sur ce qui se passe. Et ça passe par souvent de la lecture, beaucoup d'écoute de podcasts, de tables rondes, se rendre à des événements. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus marrant, le plus facile à faire venir sur la table, mais je pense que si on veut construire des alternatives qui soient fiables et qui soient bien pensées, il faut passer par là.
On était donc avec Emma, venue nous présenter le groupe Alternativa et nous annoncer la tenue du Village des Possibles les 14 et 15 octobre sur le mail François Mitterrand à Rennes. Merci Emma.
Merci.
Je me réveille, je suis encore bourré de la veille. Mon cerveau va exploser, je m'en remettrai jamais. Sérieux là, sérieux.
Début de soirée, je me prépare, c'est la méga teuf ce soir. Je mets ma plus belle salopette et fais le plein de paillettes. C'est sérieux, je vais me la mettre, ça va donner, ça va choper.
Ça va choper.
Décompressé de la semaine, oublié que j'ai pas de veine. Le bureau et les emmerdes, je suis prête à ce qu'on déchaîne. J'ai pas de problème avec l'alcool, mais c'est qu'en fait me rend folle. Impossible de m'arrêter quand je suis dans ma lancée.
Un peu de peinture sur ma gueule, beaucoup de bière dans mon gosier. Ce soir je vais pas finir seule, ouais. C'est sûr je vais choper.
Un peu de peinture sur ma gueule, beaucoup de bière dans mon gosier. Ce soir je vais pas finir seule, ouais. C'est sûr je vais choper. Comme on dit en Marlésie, tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche. Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
dimanche. Qui est ce mec qui se le ramène?
Si je te jure, on s'est déjà vu en soirée ou dans la rue.
Tu sens le mec si c'est en plein nez, t'as ni les paillettes ni bridé. Les mecs comme toi faut les brûler, ne t'approche pas de moi trop près ou de ma bague tu vas tâter. Ça finit en baston et mes copines le dégagent. Je commence ma soirée, j'avais prévenu que je serais pas sage. Je préfère l'arme défoncer qu'un Jean-Michel trop assuré avec ses techniques tout pété qui essaye de me choper.
Un peu de peinture sur ma gueule, beaucoup de bière dans mon gosier. Ce soir je vais pas finir seul, c'est sûr je vais choper.
Un peu de peinture sur ma gueule, beaucoup de bière dans mon gosier. Ce soir je vais pas finir seul, c'est sûr je vais choper. Comme on dit en Morlaisie, tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche. Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tant pis je danse Rihanna. Je voulais Kevin ou Maëla. Mais ce sera pour la prochaine fois, puisqu'il y a les potes qui sont toutes là.
Un peu de peinture sur ma gueule, beaucoup de bière dans mon gosier. Ce soir je préfère finir seul qu'avec un tocard trop bourré.
Comme on dit en Morlaisie, tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Un peu de peinture sur ma gueule, beaucoup de bière dans mon gosier. Ce soir je préfère finir seul qu'avec un tocard trop bourré.
Comme on dit en Morlaisie, tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Tous les soirs c'est samedi, tous les jours c'est dimanche.
Morlaisie sur Canal B, interprétée par Argalouve. Argalouve, c'est une rennaise qui fait du rap en mode do it yourself et elle sera sur la scène du Village des Possibles à Rennes ce week-end, plus précisément le samedi 14 octobre à partir de 19h. Et la veille, vendredi soir, elle sera déjà sur scène, cette fois au Jardin Moderne en compagnie du groupe Frustration. Vous êtes toujours dans l'émission d'info locale de Canal B qui se termine à chaque fois avec une recommandation. Et c'est parti. La recommandation du jour, c'est un conseil de choses à lire, à écouter, à voir et souvent à vivre. Et aujourd'hui, on annonce le forum Séisme Grand Ouest, organisé mercredi 11 et jeudi 12 octobre entre la Halle Marteneau et la Salle de la Cité, ici donc à Rennes. C'est un événement pour des citoyens en quête de sens, organisé en partenariat avec Rennes Métropole, la Région Bretagne et puis une vingtaine d'établissements de l'enseignement supérieur du territoire. Premier arrêt à la Halle Marteneau pour découvrir un village des solutions. On nous y promet une mise en lumière de 100 solutions vertueuses sur le territoire. Et puis du côté de la Salle de la Cité, eh bien là, le lieu accueillera des tables rondes et des témoignages inspirants sur le sujet de la transition environnementale et sociale, mais aussi des ateliers, des job dating ou encore des agora. En tête d'affiche, on retrouvera la réalisatrice du documentaire Bigger Than Us, Flore Vasseur, la journaliste de Blast, Paloma Moritz, le chercheur Luc Abadi ou encore l'auteur écolo Julien Vidal. 5000 participants sont attendus sur les deux jours de ce forum Séisme Grand Ouest. Ça se passe les 11 et 12 octobre de 9h à 20h à Rennes et c'est un événement à prix libre. Les billets sont à réserver en ligne sur le site séisme.org. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.